Vous écoutez les Apatrides anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir, ou presque, des enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Alors, à l'animation aujourd'hui, Marie-Ève, et je suis accompagnée de mes deux fidèles acolytes, Mathieu et Simon à la mise en onde. Bonjour à vous deux. au programme de notre édition du 5 mai 2019, d'abord la chronique humoristique de Christian Vanasse, l'agenda antiraciste où il sera question d'abolition des prisons, de justice restauratrice et d'exil, quelques suivis concernant le logement et l'immigration ainsi que le projet de loi 21, le retour tant attendu de la minute coloniale et les actualités internationales qui nous amèneront d'abord en Italie pour ensuite nous projeter vers les élections européennes du 26 mai. Mais d'abord, retrouvons Mathieu et sa voix radiophonique pour les actualités fédérales. Should people with leprosy and a past history of psychosis be allowed to teach our children your calls after this?
Bonjour tout le monde, les actualités nationales, fédérales. Donc, on continue dans la série des Sunny Ways du PLC. Ben écoute, il y a tellement de bonnes nouvelles en cette fin de mandat. On n'a même pas besoin de faire le bilan encore. Il y a encore des mauvaises nouvelles qu'on nous annonce du côté d'Ottawa. Je vous parlerai du contexte dans quelques minutes, dans quelques secondes, pourquoi ces annonces-là sont faites, selon beaucoup d'analystes. Mais là, la dernière, qui date il y a déjà 3 semaines, mais qui est passée quand même relativement inaperçu, c'est le projet de loi C-97 sur l'exécution du budget, ce qu'on appelle le projet de loi budgétaire, qui est un projet de loi omnibus ou mammouth, selon les termes de l'époque Harper. Et des journalistes et des groupes ont trouvé dans ce projet de plus de 350 pages des petites clauses qui concernent le statut de réfugié et l'accueil des réfugiés, et qui changent des choses assez importantes dans la loi sur l'asile et sur l'immigration. Une particulièrement qui a fait un peu plus jaser, c'est l'introduction d'un nouveau motif d'irrecevabilité d'une demande de protection si un demandeur d'asile a déjà présenté une demande d'asile dans un autre pays. Ce que ça veut dire, et là, faut pas se mélanger avec l'entente sur les tiers pays sûrs.
Ouais, non, c'est ça.
C'est autre chose. Ça, je vais en parler dans quelques secondes aussi. Mais c'est une clause qui fait que les personnes dont la demande est jugée irrecevable, a été jugée irrecevable dans un autre pays, dans 4 autres pays, ne peut pas faire une demande au Canada. Donc, c'est pas la question qui est arrivée dans un pays dit sûr et qui a pas fait de demande puis qui a fait au Canada ensuite. C'est qu'il en a fait une ailleurs, elle a été refusée. Il peut pas en faire une ici. Donc, c'est une nouvelle disposition. Et ben, les 4 pays en question, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ce que plusieurs appellent les 5 eyes ou les 5 yeux. C'est-à-dire, c'est des pays qui ont déjà une entente en matière de sécurité et de lutte antiterroriste depuis quelques années, depuis 2001.
C'est-à-dire une entente multilatérale entre eux, là?
Ouais, d'échanges de renseignements particulièrement. Ouais, donc, okay. Tous des pays anglo-saxons, majoritairement du Commonwealth. Ouais. Et finalement, donc, là, on décide que ces pays-là deviennent des pays sûrs, mais dans le sens que si tu as déjà fait une demande, tu es refusé, surtout aux États-Unis, on s'entend que c'est un peu
poilu. Et peu importe le motif du refus, là.
Exactement, okay. Exactement. Donc, ça, c'est introduit. Ça, c'est la première demande. Et ce qui fait que les personnes dont la demande est jugée irrecevable, qui vont être ici pareil, mais qui ont fait une demande, disons, en Australie, vont avoir le droit seulement qu'à une évaluation des risques avant renvoi, mais un peu moins consistante que les autres, c'est-à-dire qu'au lieu de passer devant un commissaire de la commission de l'immigration statut de réfugié, ça va être seulement une demande par écrite qui va être évaluée par un fonctionnaire sans que les personnes puissent témoigner. Donc, c'est quand même particulier. Donc, on réduit leur possibilité d'avoir le statut. Ils l'auront pas. Et pour le renvoi, on réduit encore leurs accès pour la question humanitaire. Donc, aucun droit à une audience. Et on sait que le taux d'acceptation pour l'évaluation des risques avant renvoi, quand ils ont une réponse avant d'être envoyés, hein, on s'entend, est assez faible. Donc,
non, mais c'est aussi que pendant ces procédures-là, là, normalement aussi, on peut, la personne qui fait la demande peut aussi avoir avec elle des experts, disons, de la situation
des
dans
témoignages.
Le pays, qui vont venir appuyer, par exemple, pour une demande humanitaire, pour les risques de torture et tout.
Oui, oui. Des témoignages aussi de proches ou des témoignages de gens dans le pays d'origine, des témoignages de groupes de défense des droits.
C'est ça.
Là, ça va pouvoir se faire, j'imagine, par écrit, mais pas de vraie audience. Donc ça, c'est comme une double peine, un double, ouais. double recul.
Ouais.
Et l'autre mesure, c'est la prolongation de l'interdiction de présenter la fameuse demande d'évaluation, l'erreur, ou une demande de considération d'ordre humanitaire qui demande un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens étaient refusés, ils devaient attendre un certain délai avant de faire une demande d'appel, on peut dire, à la Cour fédérale. Et là, avec la nouvelle disposition qui est inclue dans le projet de loi Mammouth, ça va être encore plus long. Donc, ça fait que les gens vont risquer d'être envoyés encore plus rapidement. Ça, c'est encore plus technique, fait que je l'explique pas pendant des heures, mais c'est tout ça pour vous dire que c'est inclus là-dedans. Évidemment, ben des groupes comme le Conseil canadien des réfugiés, dont je lis un peu leur analyse depuis tantôt, ben leur explication, dénoncent évidemment cette atteinte aux droits fondamentaux de personnes les plus vulnérables, parce qu'on parle encore des demandeurs de statut, demandeurs d'asile, et exposent de nombreuses personnes à un risque accru d'être foulées vers la persécution, en violation des obligations en termes de droits humains, évidemment. Et au niveau, ben plus politique, je vous dirais, le gouvernement Trudeau a quand même utilisé le mot qui veulent mettre un terme au magasinage des demandeurs d'asile. Hein? Quand on fait une demande dans plus qu'un pays, on fait du magasinage, ça a l'air. Donc, c'est le prétexte un peu pour introduire cette disposition-là. Mais évidemment, les libéraux, quand ils ont déposé le projet de loi budgétaire au début du mois d'avril, n'ont pas mentionné qu'il y avait ça dans le projet de loi, évidemment. C'est des gens qui l'ont trouvé, comme je vous disais. Et...
c'est un peu le propre des lois budgétaires.
Oui,
comme ça,
Mammouth,
omnibus, là, t'en profites pour passer des affaires en douce. Puis
qui n'ont rien à voir avec le budget, évidemment.
Non, c'est ça.
Et si je peux vous citer le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, je commence à me demander s'il existe, ce ministre-là. On le voit
c'est
à peu
vrai,
près
on
jamais.
Voit jamais hein?
On le voit jamais. Il y a des communiqués, mais on le voit très rarement. Il doit être en chambre, j'imagine. Mais, donc, je cite, si vous avez réclamé d'asile dans un pays qui offre un système d'asile comparable au nôtre, c'est ce système qui devrait juger de la validité de votre demande. Hein? Regardons ça. Et notre champion, Bill Blair, ancien chef de police de Toronto, ministre responsable de la sécurité frontalière, un poste créé l'année passée. Donc, il dit qu'il y a eu de nombreux cas de façon générale. Il y a de nombreux cas en général et franchement, nous trouvons que c'est approprié. Lui, il trouve qu'il y a trop de cas en général, surtout quand c'est dédoublé comme ça. Et il nie de façon véhémente que c'est une situation politique partisane à l'approche de la campagne électorale qui fait que ces dispositions-là sont déposées, car on sait que la question des arrivées irrégulières de migrants depuis 2-3 ans, c'est le pain de beurre des conservateurs, des populistes dans les provinces, en Ontario en particulier. Donc, voilà nos brillantes réponses de nos politiciens. Quoi vous dire de plus? Ben, c'est que le ministre Hussein prédit qu'environ 3500 demandes d'asile seront écartées automatiquement chaque année avec cette mesure-là, ces mesures-là. On dit que dans les gens qui sont opposés, on dit évidemment que les États-Unis sont de moins en moins considérés comme un pays sûr. On a parlé à l'émission depuis le début de l'émission il y a quelques semaines, entre autres avec l'entente sur le tiers pays sûr. Et c'est sûr que où les familles sont séparées, les enfants emprisonnés, les requêtes super difficiles à être acceptées. Donc, il y a vraiment une espèce de conjoncture où, pour des raisons bureaucratiques, partisanes, de gestion, d'économie de budget, on veut réduire par toutes sortes de moyens le nombre d'arrivées et le nombre de demandes qui peuvent être entendues. Donc,
ça... Ce que je trouve particulier, c'est si on compare, tu sais, avec le projet de Legault, tu sais, de juste faire disparaître des dossiers, tu sais, de les rayer de la carte, qui était quand même une façon, disons, un peu, maladroite, mais assez transparente, là, tu sais, ils ont pas caché pendant toute leur volonté, tu sais,
quand ils l'ont mis dans le projet de loi, ben c'était pas ça à l'origine.
Oui, je sais. Sauf que puis là, tu regardes au fédéral, alors qu'au fédéral, là, ça passe plus.
Ben on veut réduire
tapis, là,
puis on veut réduire en amont, c'est ça.
Oui, c'est ça. En amont, mais en même temps, on le fait de façon détournée, tu sais.
Ouais, tout à fait. Solidarité sans frontières ont réagi évidemment en parlant que l'État canadien tente de fermer davantage les frontières et en plus on sait que le fameux ministre Bill Blair tente de convaincre les autorités américaines de modifier l'entente sur les tiers pays sûrs pour qu'elles s'entendent dans l'ensemble de la frontière, on en a parlé un peu, et non plus seulement aux postes frontaliers officiels, mais que les gens qui arrivent de façon régulière soient aussi renvoyés parce qu'ils ont déjà foulé le sol américain. Les négociations ne sont pas encore entamées à ce qu'on sait selon les informations, mais ça devrait se faire dans les prochains mois. Dans l'optique, j'imagine, du point de vue libéral partisan, de faire une annonce avant les élections d'octobre. c'est sûr que beaucoup de gens réagissent en disant, bon, oui, le populiste de droite dans les provinces, oui, les conservateurs, oui, ça, oui, si, oui, la conjoncture internationale, mais là, on est vraiment rendu à utiliser un discours dans le langage des politiciens libéraux, fédéraux. On parle dans leur rhétorique de réfugiés légitimes, de processus établi versus immigration légale, de flot de demandeurs, d'enliser le système de protection des réfugiés, de sauteurs de files d'attente, de marchandage d'asile. Donc, oh my God. C'est vraiment un langage extraordinaire pour les Sunnyways libérales. Donc, c'est sûr que ces deux changements, s'il y a un changement à l'entente des tiers pays sûrs, puis un changement aussi dans le projet de loi budgétaire, dans le projet de loi budgétaire, pardon. Donc, ça va renforcer le mur frontalier virtuel, selon ce que nous dit SSF, qui vont concerner des milliers de personnes, qui vont avoir encore plus de misère à rentrer au Canada et qui vont être encore plus dans la précarité. Et ce que ça n'empêchera pas les gens de venir pareil, parce que peu importe, souvent les gens ne savent pas, ou même s'ils savent, ils se disent pourquoi pas. Fait qu'ils vont venir, ça va embourber de toute façon toutes les procédures, ça va être plus compliqué pour tout le monde. Et évidemment, on rappelle que les États-Unis n'est pas un pays sûr pour les migrants actuellement. Donc, SSF, la semaine passée, avait fait un appel à tout le monde d'appeler tous les députés libéraux fédéraux pour leur dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le projet de loi C-97 sur le budget qui inclut, là, les deux fameuses modifications. Et peut-être vous rappeler aussi que du 20 au 27 mai, Solidarité sans frontières appelle une semaine d'action pan-canadienne pour mettre fin à l'entente sur les tiers pays sûrs, pour que les gens puissent rentrer partout, y compris dans les pays, dans les postes frontaliers, et puissent faire une demande d'asile, et pour l'ouverture des frontières de façon générale. Donc, c'est à peu près ça sur ce dossier-là. C'est sûr qu'on va continuer à suivre ça dans les prochaines semaines. Je sais pas si j'ai un 2-3 minutes. Donc, le régisseur me dit que j'ai le temps de parler de 2-3 autres choses. Donc, c'est parce que cette semaine aussi, c'est toujours dans le cadre des réfugiés. Il y a une autre nouvelle qui est apparue dans les journaux de la presse canadienne sur le fait que Ottawa en a presque fini avec les anciennes demandes d'asile datant de 7 ans. Donc, ça veut dire quoi, ça? Oui, mais quoi? C'est que les conservateurs avaient décidé en décembre 2012 que ils changeaient un peu le système d'audience et le processus, pardon, oui. pour fixer les audiences aux demandeurs d'asile. Et il disait que ça prendrait 60 jours. Ça, c'était Kenny. Hein? On parlera de Kenny peut-être dans l'émission la prochaine fois, qui avait décidé que ça prendrait pas plus que 60 jours. Fait que les vieilles 32 000 demandes qui traînaient, ils ont été mis comme un peu sur le côté en disant on va prioriser les nouvelles et on va mettre un délai de 60 jours. On est beaucoup dans la bureaucratie hein, quand on parle d'immigration.
Ben, c'est des lois, ouais, c'est une loi administrative, hein, la loi sur l'immigration. Donc,
Tout à fait. Mais tu sais, on voit vraiment qu'on est dans les questions de budget, les questions de, bon, combien ça coûte, combien de temps ça prend.
D'être humain, là, c'est la vie d'être humain qui est en jeu.
Il faut sortir les bons chiffres, ouais. etc. Donc, finalement, il y a 32 000 personnes qui ont été exclues en décembre 2012 par les conservateurs, qui ont été mis sur une voie de garage, justement, donc on les traitait. Et là, le ministre Ahmed Hussein a dit qu'il restait 1% de ces 32 000-là là, la semaine passée qui n'étaient pas traités, puis il parlait que ceux qui restaient, ils ont été suspendus, ont déjà été entendus ou attendent une décision qui devrait être rendue d'ici juillet. Donc, il était très fier d'annoncer ça, mais finalement, dans le même temps, ben, avec ce qu'on parle depuis tantôt, ben, la commission de l'immigration et de la sécurité fait face à un nombre encore plus important de demandeurs d'asile, parce qu'il y en a eu plus dans les dernières années.
Ouais.
Donc, les plans pour 2019-2020 montrent que la commission subit des pressions importantes, car les nouvelles entrées continuent de dépasser de manière importante la capacité financière. Donc, on parle de plus de 75 000 demandes accumulées actuellement, mesdames et messieurs. Donc, on avait 32 000 en décembre 2012, et là, on est rendu à 75 000, malgré qu'on ait éliminé les 32 000. Ah. Donc, et évidemment, il n'y a pas assez d'argent, pas assez de commissaires, pas assez de fonctionnaires. Donc, en 2017-2018, le nombre par mois de nouvelles demandes qui dépassent la capacité de traitement est de 2300 par mois. C'est quand même beaucoup, hein?
Ouais.
Et, bon, on met ça sur le coût des 41 000 migrants irréguliers rentrés depuis 2017 entre les postes frontaliers. Mais quand même, dans le budget actuellement, il y a des nouveaux investissements prévus de 208 millions qui vont permettre d'embaucher bon tant de personnes. Et ça vise à traiter 50 000 demandes par année. Mais là, il y en a 75 000 en arriéré et il y en arrive plus que 50 000 par année.
Non, c'est ça. Ça marche pas.
C'est que ça marche pas parce qu'en plus des 41 000 dits irréguliers, il y a une augmentation du nombre de réfugiés ordinaires aussi, de toute façon. En fait, tout ça pour vous dire qu'il y a un projet pilote qui est prévu. Ben, non, le gouvernement prévoit élargir un projet pilote où quand les réfugiés vont comparaître, les demandeurs d'asile, au lieu d'avoir un dossier de la GRC, un dossier de l'Agence de services frontaliers, un dossier du ministère de l'Immigration, ça va être un dossier tout mêlé au lieu de trois, on va en avoir juste un. Et comme ça, ils pensent sauver du temps et sauver de l'argent. Mm-hmm. Donc, on est dans la bureaucratie, dans la gestion. Donc, finalement, avec toutes ces modifications-là, hein, enlever du monde, réduire la bureaucratie, réduire le nombre de dossiers de 3 à 1 pour ce qui est du dossier de contenu qu'on présente, ben, M. Hussein prévoit de passer de 2 ans à 13 mois pour la moyenne d'attente, donc, d'ici quelques années. Donc, c'est fantastique, hein?
Écoute, on verra ce que ça donne.
Mais là, c'est sûr qu'on est dans le technique un peu, là, mais on voit vraiment qu'il y a des gens qui gèrent ça dans leur tour d'ivoire en voulant produire des belles statistiques, surtout pour des élections, mais qu'il y a plein de gens pendant ce temps-là qui se retrouvent dans les méandres et les limbes.
Ouais, je pense que ça a été fait avec un tableau Excel.
Moi, je dirais ça.
Ces modifications-là.
Sûrement une firme proche du Parti libéral, oui, j'imagine. C'est aussi une firme spécialisée en gestion des statistiques.
Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Là, j'ai le bon micro, mais on dit que ça s'inscrit un peu dans le cadre d'une genre de pré-campagne électorale populiste, tout ça, mais c'est finalement ce qui n'a pas été annoncé. On dit que tu as dit tantôt aussi que c'était dans un bill omnibus, c'était un peu caché dans les petits caractères. Mm-hmm. Donc, je comprends pas la stratégie là-dedans, s'il y en a une ou si c'est juste complètement n'importe quoi.
Ben, je pense que tous les gouvernements ou les partis de centre-droit sont toujours pris entre un électorat un petit peu plus progressiste qui vote pour eux quand même pour bloquer la route au plus à droite, et ils veulent plaire aussi à des plus conservateurs. Donc, j'ai l'impression, c'est très personnel, là, puis c'est pas réfléchi depuis 3 mois, mais qui annonce ça, ils l'annoncent pas, c'est dans le budget, mais quand ça va être, le résultat va être arrivé, ils vont pouvoir l'annoncer en campagne électorale. Je pense que c'est peut-être un peu ça, ce que je peux penser.
Donc, on prépare le terrain législativement parlant.
Pour des annonces spéciales en campagne électorale qui pourraient plaire à un électorat plus conservateur, plus craintif, plus...
Ça fait bien du sens.
Ouais. Ah, ben écoute, je suis très content d'avoir répondu clairement à la question. On écoute à ce moment, Simon, Herman. On écoute Herman, oui, ton visage est sur le mien. Et dans quelques minutes, on passe à la chronique humoriste, Mariam.
C'est cela, oui.
J'ai passé toute ma vie à chercher, alors que c'est moi-même que je voulais. Ni le miroir, ni ma photo dans un cadre, ne présentait mon véritable visage. Aujourd'hui, j'ai constaté que mon visage, cette fois, c'est lui, c'est elle. C'est tous les habitants du monde entier, faisons l'effort de nous aimer. Car ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant de dire tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes. Ton visage est sur le mien, mon visage est sur le tien. Avant de dire tu m'aimes, demande-toi si tu t'aimes.
Alors, on écoutait la formation Herman avec la pièce « Ton visage est sur le mien ». Une fois par mois, les apatrides anonymes passent le micro à un ou une invitée pour un billet d'humeur sur le sujet et la forme de son choix. Coup de gueule, éditorial absurde et parodie sont au menu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter le varlopage tout en finesse du zapartiste Christian Vanasse.
Hey, salut Choc, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être présent avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous remercie de mettre une tribune à la disposition d'un humoriste mâle, blanc, hétérosexuel. Ça fait plaisir, c'est tellement rare de nos jours, on va en profiter un petit peu. Fait que j'ai le goût de vous demander en commençant comment ça va, puis de pas tant écouter votre réponse. Un peu comme dans un show d'humour. Hey, ça va bien, puis on passe à autre chose. Mais je vais rapidement passer à autre chose. J'ai remarqué que vous avez intitulé la chronique humoriste. Ça, je trouve ça très intéressant. Humoriste, un peu comme les légumes moches en humour. Tu sais, je veux dire, ça fait un job, c'est nourrissant. Ça a pas l'obligation d'être super le fun. Hein? Fait que on peut y aller, on peut faire de l'humeur, on peut faire de l'opinion. Hein? C'est le fun, l'opinion. On aime beaucoup ça. On valorise tellement l'opinion qu'on l'a élevé au rang de marchandise. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir l'opinion de ceux qui vont te la donner de toute façon quasiment gratis. Des fois, tellement gratis, t'as l'impression de leur devoir de quoi. Il y a des faiseux d'opinion professionnelle. C'est un métier, ça. Ils donnent leur opinion tranchée à chaud. C'est des sujets frais de jour, à chaque jour. Des fois, plusieurs fois par jour. Ils peuvent même t'offrir 2-3 opinions complètement différentes dans la même phrase. Les grands faiseux d'opinion, des fois, là, ils vont tellement vite, tu dirais qu'ils prennent même pas le temps de réfléchir, prêcher parce qu'ils savent qu'ils ont raison dans le fond. Parce qu'eux autres, ils se posent pas des questions, ils garochent des réponses. Des fois, tu te dis, crime, c'est quasiment comme s'il y avait des opinions déjà toutes faites, prêtes à penser en dessous du comptoir, puis ils te servent ça, paf, t'sais, ils font de l'opinionnering. Ouais, tu sais, je sais, des fois, dans les légumes moches, il y a dans tout le temps un bout que tu te dis, bof, je le garderai pas, ce bout-là, ben, c'était ce bout-là. J'avoue, des fois, j'ai pas d'opinion. Tu sais, vous essaierez ça, vous autres, à un moment donné, à pas avoir d'opinion, tes chums te regardent, sont là, ils disent, quoi? T'as pas d'opinion là-dessus? Eh, voyons donc, t'as pas d'opinion, comment tu peux faire? T'sais, tu peux pas ne pas avoir une opinion. Hein? Tu peux pas ne pas avoir une opinion sur la fin d'entrée principale, ou tu peux pas ne pas avoir d'opinion sur les très grands chapeaux. Sans opinion, tu peux rien faire, mon chum. Et non, tu peux surtout pas critiquer l'opinion d'un autre si t'en as pas une solide toi-même. Tu sais, veux dire, comme dans l'expression « Never bring a knife to a gunfight », sauf si t'es Rambo ou Jason Bourne avec un stylo, mais je veux dire, faut avoir des bonnes opinions pour arrêter les mauvaises opinions. Tu comprends? Fait que ramasse-en une, il y en a plein dans les journaux, à radio, à TV, dans les internets, c'est tout le temps la même qui tourne en boucle, anyway, tu peux pas en manquer. Hey, on tripe sur l'opinion, même la majorité silencieuse a une opinion. Ben, étant donné qu'elle est silencieuse, tu peux y faire dire à peu près n'importe quoi, mais je veux dire, en une, pareil. Puis en plus, on tripe tellement sur l'opinion, il y a une section commentaire sur le site de Météo Média, man. Écoute, quel genre de débat il peut y avoir là? Ah, regardons ça, il y a neigé. Bon, d'accord! On peut plus rien dire! Ça, là! Oh, ça, c'est à peu près l'opinion la plus répandue. C'est à peu près la chose qu'on entend le plus souvent. C'est jamais autant dit de toute l'histoire de l'humanité, on peut plus rien dire. Parce que, au fond, avoir une opinion, c'est exister. Je pense, donc je suis, c'est devenu moi je pense, fait que je suis, tu sais. Et sous la dictature du commentaire, ne pas avoir d'opinion, c'est suspect. Ouais, fait que quand j'en ai pas d'opinion, tu sais, pour me cacher, ben, je prends l'opinion d'un autre, comme je prends l'opinion de mon père. Parce que moi, dans la vie, là, le métier que je fais, là, c'est simple. Je donne mon opinion sur une scène, puis quand j'en ai pas, je donne celle à mon père. Parce que mon père, c'est un personnage. Ah, lui, il est tellement conservateur, lui, il vote encore pour Diefenbaker, tu sais, en tout cas. Fait que, un moment donné, il vient voir un show, puis moi, comme de fait, ben, je suis sur scène, puis je l'imite, tu sais. Je suis le citoyen le plus taxé de l'univers connu, moi. Hey, moi, je suis taxé cette année, là. Hey, je paye une taxe santé, jamais malade. Je paye une taxe scolaire, jamais à l'école. Je paye une taxe d'amusement, jamais de fun. Fait que, je l'imite, ça va bien. Puis, je reviens après, je vois mon père, puis je lui demande, puis, il me regarde. Il dit, il vous paye pour ça? Hey, mon père, ça, il sort de la tête complètement. Il comprend pas ce que je fais, tu sais. Lui, c'est un gars de concret, pis il dit, non, oui, j'en donne tout le temps mon opinion. Personne me paye pour. Y a personne qui applaudit à la fin de mon chiffre, moi. Hey, mon père, ça le fait chier, là, ceux qui donnent leur opinion de même pis qui sont payés pour ça. Fait que, pis ce qui le fait encore plus chier, c'est quand je donne son opinion sur les ondes de Radio-Canada, payé avec ses taxes. Ah, là, il capote, il devient bleu, bleu, bleu. Aïe, aïe. Mais attends, on fait bien des farces ces opinions, mais je suis bien conscient que c'est pas toutes les opinions qui se valent, hein. Il y a des opinions qui sont plus toxiques que d'autres. Il faut apporter des, moi je le dis tout le temps, nuance, calice! Ça, c'est mon mot d'ordre. Moi, je suis le Chuck Norris de la nuance, tu comprends? Fait que des opinions toxiques, il y en a. Bon. J'ai trouvé ça bien dommage que dernièrement, ben par exemple, le Journal de Montréal puis TVA Nouvelles ont mis énormément d'énergie à retirer des commentaires toxiques puis des opinions haineuses de leur plateforme, alors que il aurait juste pu retirer Richard Martineau, une partie du problème aurait été réglée. Non, attends. Je dis ça, puis là, il y a une mechum qui fait « Hey, crime, il y en aurait d'autres à retirer des chroniqueurs, chroniqueuses du Journal de Montréal avec leurs opinions toxiques, voyons donc. Hey, enlève-moi Denise Bombardier, puis enlève-moi Lise Ravary, puis enlève-moi... » Oh. Hey, là, on se calme, là, hein? Pas Lise Ravary, non. Lise Ravary, faut la garder en place. Elle, c'est un exemple pour la jeunesse. Non, Lise Ravary, c'est la preuve qu'on peut continuer à être productif à un stade avancé de la démence. Hey, puis là, je suis quasiment rendu à moitié de ma chronique, puis je me rends compte que je suis en train de ne pas parler d'une injustice incroyable. En fait, je devrais laisser le reste de ma tribune, le reste du temps que j'ai, je devrais laisser ça à quelqu'un qui en a pas, à quelqu'un qui n'a pas cette parole-là, qui n'a pas cette chance-là de s'exprimer publiquement. Et je pense à Mathieu Bock-Côté. MBC pour les intimes, qui a été honteusement censuré par l'extrême-gauche. Ouais, en même temps, là, je dis ça, là, puis j'ai rien contre l'extrême-gauche, là, hein? j'ai des amis d'extrême gauche, mais là, l'extrême gauche est allée trop loin. Ben, je vous rappelle les événements, vous en avez peut-être entendu parler brièvement, là. C'est que Mathieu Boccoté sort son nouveau livre présentement qui s'appelle « L'Empire du politiquement correct », dans lequel il démontre que l'espace public n'est pas neutre, tous les courants idéologiques n'y étant pas accueillis de la même manière. Hmm? Puis il sait de quoi il parle, il travaille pour l'Empire québécois, puis Dieu sait qu'au sein de l'Empire québécois, ben, il y a des courants idéologiques qui sont pas accueillis de la même manière. Fait qu'il sait très bien de quoi il parle, là. Donc, il avait prévu aller rencontrer quelqu'un et débattre dans une bibliothèque de la liberté d'expression, et on peut plus rien dire, finalement, hein, tu sais. Et là, il y a des gens de l'extrême-gauche qui ont proposé d'aller chahuter sa conférence. En fait, c'est un débat-conférence avec quelqu'un avec qui il est déjà d'accord, mais bon. Et puis là, ils se sont dit, « Hey, on va y aller. » Il y a même des comiques qui ont dit, « On va apporter des œufs. » Et il y en a qui ont proposé d'aller l'entarter. Et ça, je trouve que je suis assez en désaccord avec cette idée-là. Moi qui supportais un fervent partisan de la pâtisserie politique. Mais entarter quelqu'un dans une librairie, c'est pas une bonne idée. C'est déjà assez compliqué de vendre des livres de même. Là, c'est déjà assez tough. Si en plus, faut que tu le vendes à 50% de rabais parce que dessus, il y a une grosse tache de crème pâtissière, t'auras beau dire que la crème, elle vient de la face à Mathieu Boccoté. Je suis pas sûr que c'est une plus-value pour le livre. Et là, le SPVM, toujours à l'affût de l'extrême-gauche, a lu le site Facebook de la librairie en question pour se rendre compte des épouvantables menaces qui pesaient sur Mathieu Boccoté et se sont dit « On va aller les voir, on va leur dire. » Et la librairie a fait « Bye! » Boccoté, ils ont reculé. T'sais? Et donc, ils ont pas fait la conférence. Mais l'extrême-gauche ne se doutait pas de la formidable intelligence de Mathieu Boccoté qui a tourné ça à son avantage en se promenant sur toutes les tribunes pour dire qu'il était censuré, comme Alain Finkielkraut. Vous savez, le grand philosophe français, là, qui a lui aussi été censuré, Mathieu Boccoté s'en est servi comme exemple. Elle te dit que tu te prends pas pour du 7-Up flat, là. Tu sais, tu te compares à Alain Finkielkraut quand même. Et puis là, il dit, ben oui, comme lui, j'ai été censuré. Il faut savoir que Alain Finkielkraut avait donné une conférence effectivement récemment à Paris, puis il y a des manifestants de l'extrême gauche qui avaient chahuté à l'extérieur parce que la conférence a quand même eu lieu. Le gars s'est fait censurer, mais il a quand même pu parler et faire sa conférence. Vous voyez, c'est quand même particulier. Et donc, pauvre Alain Finkielkraut, hein, où va-t-il pouvoir s'exprimer, hein, en France? C'est tellement fermé le milieu, là. Il y a tellement peu d'endroits où les philosophes de son genre peuvent avoir une tribune. Imaginez-vous. Donc, c'est exactement la même chose qui se passe avec Mathieu Boccoté, qui se retrouve finalement à pu pouvoir rien dire. Et ça, là, c'est épouvantable. Heureusement qu'il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses du Journal de Montréal qui ont pris sa défense pendant toute la semaine à grand renfort de textes pour nous prévenir qu'il n'y a pas plus grand danger et menace sur notre société que la dangereuse extrême-gauche. Le très nuancé Normand Lester, il est même allé d'un texte où il nous prévenait que ce qui se passe là, présentement au Québec, c'est comme en Allemagne en 1936. Bon, à part que les fascistes sont pas au pouvoir, puis ils se promènent pas dans la rue avec des lampions, puis ils font pas des autodafés de livres, puis ils ont pas le projet politique d'amener plein de monde aux chambres à gaz. Mais sinon, outre ces détails-là, c'est pareil, on est comme en Allemagne en 1936 à cause de l'extrême-gauche. Par quel lien tordu fait-il une association entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite? Vous me direz, écoute, je suis pas dans la tête à Normand Lester, là, mais je vais y laisser son opinion. Mais donc, il y a plein de chroniqueurs, chroniqueuses qui ont pris la défense de Mathieu Boccoté. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire, absolument. On veut pas vivre dans un monde où des grands penseurs se font censurer. On veut vivre dans un monde où on accueille la parole de Mathieu Boccoté sans critiquer, sans chialer, la bouche ouverte, à genoux, telle l'hostie de vérité qui se dépose sur nos langues, les yeux fermés, les bras en croix, et de dire « Merci, mon Dieu Boccoté, merci de votre bonne parole et délivrez-nous des impies, des sarrasins et des anarchistes qui refusent la croix et le drapeau. » Non seulement Mathieu Boccoté ne mérite pas d'être censuré, il mérite qu'on lui donne encore plus de tribunes. Et on mérite que les buffets All You Can Eat aux 24 heures, on mérite une 13e bouteille dans une caisse de 12, on mérite un canal à la télé consacré juste aux apparitions de Marie-Pierre Morin. Je trouve qu'elle n'a pas assez. trouve qu'on devrait permettre à Mathieu Boccoté de venir nous expliquer sur toutes les tribunes qui existent au Québec, en France et dans la francophonie, pourquoi on y donne pas la parole. Moi, je trouve que ça revient à dire que ceux qu'on entend le plus se plaindre, qu'on peut plus rien dire, ben c'est ceux qui ont le plus de tribunes pour le dire. Pis c'est bizarre, pareil, hein, parce que l'extrême droite fait des tueries dans des églises gospel, des synagogues puis des mosquées. Mais pour les chroniqueurs et chroniqueuses du Journal de Montréal, la vraie menace, c'est l'extrême gauche qui veut entarter.
Encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier.
Nous venons d'entendre Rokia Traoré avec la pièce Nesso. Chaque édition des Apatrides Anonymes vous propose un calendrier d'événements en lien avec les thématiques de l'émission. Alors, je commence avec le 11 mai prochain. Solidarité sans frontières organise un panel de discussion sur l'abolition des prisons et la justice réparatrice. Qu'est-ce que la justice réparatrice? C'est un modèle de justice qui voit le crime, entre guillemets, plus comme un acte contre une personne ou une communauté que contre l'État. Et c'est un modèle où la victime joue un rôle majeur et peut bénéficier de la part de l'auteur de l'acte en question de certaines formes de réparation. La justice réparatrice prend également différentes formes, mais à peu près tous les systèmes ont des aspects en commun, dont le principal est que les victimes ont l'occasion d'exprimer l'impact détaillé que l'acte a eu sur leur vie, de recevoir des réponses aux questions qui les hantent par rapport à ce qui s'est passé et de participer à la responsabilisation de l'auteur pour ses faits et gestes. Les auteurs peuvent, quant à eux, raconter l'histoire du pourquoi de l'acte et quel effet il a eu sur leur vie. Et on leur donne l'occasion de réparer, entre guillemets, les choses avec les victimes, évidemment, dans les limites du possible, par certaines formes de compensation. Dans certains contextes, les pratiques de justice réparatrice peuvent jouer un rôle très important dans la lutte contre le colonialisme et les systèmes de justice oppressifs de l'État. Alors, lors du panel, les intervenants et intervenantes vont présenter des initiatives en matière de justice réparatrice au Cameroun et ici, et vont également parler de l'importance de l'abolition des prisons dans le contexte du colonialisme et de l'injustice du système étatique. Il y aura trois panélistes. Premièrement, Ntebo Ebenezer Aoungafak, qui est arrivé au Canada en 2015, mais qui a été jugé interdit de territoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu présenter de demande d'asile parce qu'il a été accusé d'appartenir à un groupe de défense des droits de la population du sud du Cameroun qui préconisait la force pour renverser le gouvernement, une allégation qu'il nie. Il attend actuellement une décision qui va déterminer s'il sera ou non déporté au Cameroun où il risque l'emprisonnement, la torture et possiblement la mort. Donc, Ebenezer va décrire le travail qu'il faisait dans le sud du Cameroun pour mettre en place des alternatives d'accès à la justice pour les communautés rurales. Il y aura également Hélène Hudson qui travaille en solidarité avec les prisonniers et prisonnières depuis 20 ans. Elle travaille également principalement avec le collectif Certain Days. Et il y aura finalement Jessica Kijano qui est une militante et coordonnatrice d'un projet au Native Women Shelter de Montréal qui vise à mettre fin aux disparitions et assassinats de femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones au Québec. Jessica est également intervenante de première ligne depuis 15 ans et une ardente partisane de la réduction des méfaits, de la dépénalisation du commerce du sexe et des drogues et de l'abolition des prisons. Donc, le panel va avoir lieu le 11 mai à 14h à l'Université Concordia. Pour tous les détails, vous pouvez visiter le site de Solidarité sans frontières, www.solidaritésansfrontières.org. Et le deuxième événement dont je voudrais vous parler est une exposition dont le vernissage a eu lieu le 4 mai, c'est-à-dire hier, une double exposition multidisciplinaire qui est présentée jusqu'au 26 mai au Musée des maîtres et artisans du Québec. Donc, cette double exposition, il y a une première partie qui s'intitule « Exil, peuple d'ici et d'ailleurs » qui explore la thématique de l'exil, donc, comme un moment de transition et de mutation individuelle et collectif. Donc, on y verra différents médiums, installations, sculptures, dessins et photographies. Et les artistes qui exposent sont issus des Premières Nations et de la diaspora libanaise, irakienne et iranienne. Puis la deuxième partie de l'expo s'intitule Bridges of Hope, c'est-à-dire les ponts de l'espoir, qui aborde elle aussi l'exil, de la diaspora et les expériences interculturelles par des œuvres visuelles et photographiques, mais cette fois-ci d'artistes sud-asiatiques principalement. Cette expo-là est présentée dans le cadre du festival Accès Asie, qui est un festival qui est basé à Montréal depuis 95, qui fait la promotion des arts, des cultures et des histoires asiatiques sous différents types d'arts. Là, on y va autant des arts visuels, danse, théâtre, cinéma, poésie, performance, et donc vous pouvez voir tous les détails de la programmation de ce festival qui se déroule jusqu'au 30 mai au site internet accèsasie.com. Alors, nous allons rejoindre le retour. Nous allons maintenant au retour tant attendu de... Oui, donc on revient avec Mathieu, pardon, pour quelques suivis sur le logement et l'immigration, ainsi que l'infâme projet de loi 21.
J'étais très tant attendu, évidemment, Marie-Ève. Merci beaucoup. Donc, il y a quatre semaines, à notre émission numéro 2, on avait parlé, je vous avais parlé de la manif du Frappru et de plusieurs groupes, plusieurs comités logement, sur la question de immigration, discrimination et logement. Et je voulais juste vous dire que quelques jours après, il y a eu un reportage à l'émission La Facture sur les ondes de Radio-Canada sur les demandeurs d'asile, étudiants étrangers, nouveaux arrivants, réfugiés, qui se font avoir de toutes sortes de façons au niveau du logement. Et il y avait un cas en particulier que je trouvais intéressant. Vous irez voir le reportage au complet, si vous voulez, sur le site de La Facture à Radio-Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que on parlait d'un crosseur, un vrai crosseur, qui loue, qui est locataire de plusieurs appartements à Montréal et qui décide de les sous-louer à des personnes qui viennent d'arriver. Il distribue ses cartes particulièrement à l'Université Concordia, l'Université McGill, les personnes qui parlent pas français, des gens qui savent pas trop où se loger, qui connaissent pas leurs droits. Et il décide de sous-diviser l'appartement. Disons, il loue un 5,5, il y a 3 chambres, il fait 6 ou 7 lits sous chambre. Et là, il loue 4 fois le prix qu'il a payé au propriétaire. Il y en a plusieurs comme ça. Et il a été condamné maintes et maintes fois par la régie du logement parce qu'il y a eu des plaintes de propriétaires, de sous-locataires, de colocs, qui sont fait avoir parce qu'ils partaient avec l'argent, ils changeaient les clés, les gens peuvent pas récupérer leurs choses.
Un vrai de vrai crosseur.
Un vrai de vrai, là, t'sais, professionnel, là, t'sais, qui vit de ça. Et il est nommé, j'ai oublié son nom, là, il est nommé dans le reportage. Mais tout ça pour dire que ça montre beaucoup que les personnes nouvelles qui viennent d'arriver connaissent pas leurs droits, sont des cibles faciles, et aussi que les droits des locataires sont méconnus et non respectés et que les lois pour les faire appliquer sont très très limitées. Donc je voulais juste faire un petit suivi là-dessus, vous dire que j'avais pas je vous parlais que les personnes migrantes souvent payaient plus cher, puis on se disait comment ça ils payent plus cher parce qu'ils ont moins de revenus, mais c'est parce qu'ils se retrouvent dans des situations où ils se font louer toutes sortes d'affaires, tout croche, ils savent pas qu'est-ce qui est possible d'avoir, comment négocier et où se retrouver, ils ont moins accès au logement social, on en a parlé aussi, donc tout ça, donc c'est un peu ça, mais je trouvais ça, cette arnaque-là, puis c'était une femme d'Arabie Saoudite qui était dans le reportage principalement, et d'ailleurs, parenthèse qui est comique, en Arabie Saoudite, ils ont comme servi cette nouvelle-là pour dire qu'au Canada, c'était pas une très bonne démocratie, parce que des personnes se faisaient avoir au niveau du logement,
oui.
Que tout le monde a trouvé.
J'aimerais ça connaître la régie du logement
En Arabie Saoudite.
Ça doit être très efficace.
La régie des propriétaires. Voilà, c'est ça.
Hey boy.
Donc voilà pour cette parenthèse-là. Projet de loi 21, je voulais juste vous en parler parce que c'est toujours dans l'air. La commission parlementaire, à ce que je sache, n'est pas commencée. D'ailleurs, elle va être assez courte et sur invitation, je vous l'avais dit aussi, donc là-dessus, ça va être assez limité parce que l'objectif du gouvernement libéral caquiste, c'est de le faire adopter, le projet de loi avant l'été.
Et il y avait d'ailleurs une chaîne humaine qui se poursuit actuellement au centre-ville de Montréal, autour du palais de justice,
exactement.
Je crois, de Montréal,
oui,
là, contre le projet de loi 21.
Oui, ben c'était intéressant cette manif-là après-midi parce que c'était un peu par corps de métier, entre guillemets. Il y avait des enseignants, des juristes, des éducatrices en CPE, tu sais, des gens qui venaient comme parler de gens qui sont visés directement par le projet de loi. Donc, on venait faire une partie de la chaîne humaine autour du palais de justice. Donc, on n'a pas pu y aller parce qu'on avait une émission, mais ça avait l'air intéressant. Hier, il y avait une manif aussi, peut-être en parler tant qu'à faire aussi, la vague bleue, organisée par des groupes nationalistes, identitaires, qui devaient promouvoir une citoyenneté, une constitution citoyenne pour le Québec, mais ça a dérapé rapidement sur le projet de loi 21. C'était une manif plus pro projet de loi 21 dans le contexte. Et on a eu des échos par les médias, mais aussi par des personnes qui étaient sur place. Et il y avait quand même plusieurs centaines. Et ils manifestaient devant TVA parce qu'ils considèrent que TVA, c'est un média libéral trop à gauche.
Et boy.
Ouais, trop écologiste.
Trop écologiste.
Trop immigration.
Donc, quand on sait que c'est le plus grand empire au Québec, Québécois est quand même relativement à droite. Monsieur Vanasse en parlait pas mal tantôt. C'est drôle que ces gens-là qui se disent nationalistes et qui se disent pas identitaires et racistes vont manifester devant TVA. Il était 7-800, ça a l'air. Il y avait une contre-manif antiraciste, antifasciste que la police s'est bien gardée de séparer l'une de l'autre, mais on nous a dit qu'il y avait quand même beaucoup de néo-nazis dans la manifestation des de la vague bleue connue, soldats d'Odin, Atalante et compagnie. Et donc on est dans l'histoire de qui reprend le terrain à Montréal, là, c'est l'extrême droite versus les antiracistes, les antifascistes. Puis mais j'avoue que ça se passait devant TVA, ça a fait sourire beaucoup de gens. J'aurais aimé ça voir la couverture de TVA d'ailleurs de l'événement. Je vais m'en y revoir peut-être dans les prochains jours. Donc
ben je crois qu'ils font ça à toutes les semaines, hein.
Ah ben, pas gros comme ça.
Non, il était un petit mouton de 40. Je veux pas dire du monde de fondrant parce que c'est pas gentil pour les,
pour les
rangs qui habitent. Non, pour les rangs. En tout cas, je vais te laisser poursuivre ta question.
Oui, oui. Non, c'est sûr qu'il y a des vigiles, ça, il y en a, mais là, c'était quand même un événement un peu plus gros. Puis il y avait d'autres vagues bleues un petit peu partout au Québec aussi. Je sais pas qu'est-ce que ça a donné. Mais tout ça pour dire que le projet de loi 21 est toujours dans l'air. Et ce que j'en remarque, si je peux me permettre, c'est que ça a été la grosse affaire au début, dans les premières semaines. Et là, ben, il y a eu les inondations. Là, c'est la DPJ cette semaine. Puis là, on se dit, ah, regardons ça, on parle plus vraiment du projet de loi 21 comme si les gens qui avaient à dire qu'ils étaient contre l'avaient dit, puis que c'était comme, les médias avaient trouvé que c'était comme un peu réglé, puis que là, on passait au processus parlementaire législatif d'adoption, puis il y aurait quelques petits amendements, mais, tu sais, il y a comme un... J'en reviens pas encore que, entre autres, les grands syndicats d'enseignants et d'autres secteurs se mobilisent pas plus que ça, que ça soit resté un petit peu dans des groupes un peu minoritaires ou militants au niveau de la contestation du projet de loi 21. Puis quand je relis la déclaration d'SSF sortie en avril, qui est très claire sur les liens entre, tu sais, des politiciens qui se font du capital en lien avec l'extrême droite qui monte, le populisme anti-immigrant, anti-musulman, tu dis, voyons, il me semble qu'il y a du contenu à parler plus que ça, plus que juste qu'une manif de temps en temps ou une petite chronique, et que là, on se retrouve un projet de loi qui risque d'être adopté, qui pourra pas être contesté parce qu'il y a la clause non-obstant, la clause dérogatoire. Donc, moi, je trouve que c'est malsain. Puis là, je vous ai parlé la semaine passée des audiences de la commission parlementaire sur le projet de loi 9 sur l'immigration, les niaiseries de la Fédération des Québécois de souche. Je te dis, voyons, coudonc, t'sais, ça passe un peu. C'est comme dans la normalité des choses. Ben, les sondages disent que 75% des gens sont d'accord avec l'interdiction des signes religieux. Fait que c'est ça qui est ça.
C'est la fameuse majorité silencieuse c'est dont ça. Christian Vanasse parlait dans sa chronique.
Exactement. Donc, je voulais pas faire une montée de lait moi-même, là, ou, t'sais,
Oui,
pompe-toi. Mais qu'est-ce qui se passe avec le vrai débat, les vraies affaires, coudonc? On va laisser ça passer de même.
Quand est-ce?
Hey, on va faire du populisme de gauche, nous autres.
Mais il va quand même avoir une commission parlementaire bientôt. Donc
j'en ai parlé.
Oui, sauf que c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que c'est presque que.
C'est sur invitation, c'est court et c'est ça. T'sais, c'est intégré dans un processus.
Mais c'est pratiquement c'est seulement des interventions en faveur, en plus, du projet de loi. Parce que tous ceux qui avaient des critiques se sont presque tous désistés. Donc, c'est ça.
Ouais. C'est ça. Donc,
oui, t'as raison
qu'il va y avoir un petit plus de couverture médiatique ou d'intérêt. Mais moi, j'ai peur que ça passe un peu dans le beurre. Donc, c'est ça que je voulais vous dire dans mes suivis d'aujourd'hui.
Bien, merci Mathieu. Alors, sur ce, là, c'est vrai, on s'en va vers la tant attendue Minute coloniale.
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. Dans le jardin d'acclimatation de Neuilly, à Paris, les foules éprises de savoir et d'ouverture sur le monde pouvaient s'instruire sur les différentes peuplades de notre planète grâce à de magnifiques exhibitions ethnographiques. Ces splendides zoos humains attirèrent à la lisière du bois de Boulogne entre 1877 et 1937 des millions de Parisiens. On se bousculait pour observer le spectacle vivant de Nubiens, de Sénégalais, de lapons, entre autres. Ils vaquaient à leurs occupations primitives, savamment disposées derrière des grillages, dans une fidèle reproduction de leur hutte ou de leur grotte, comme les animaux qui faisaient la réputation du jardin zoologique voisin. Les gens des beaux quartiers accouraient pour voir ces hommes, femmes et enfants exotiques parés de leurs plus beaux et authentiques attributs. Lances, peaux de bête, pirogues, masques, bijoux. Les Kanaks, ces bien étranges étrangers, présentés comme des cannibales, étaient exhibés dans la fosse aux ours du jardin d'acclimatation. Le frisson de la dangerosité parcourait la frêle échine des jantes d'âme. Une glace aux myrtilles, en canotant à l'ombre des saules pleureurs centenaires du grand éton du bois de Boulogne, était fort salutaire après de si fortes émotions. C'était la Minute coloniale, présenté par les Apatrides Anonymes.
En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je comprends pourquoi la Minute Coloniale est si appréciée et populaire.
On en fera d'autres.
Ça, c'est sûr. Alors, vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc. Alors, nous passons maintenant aux actualités internationales. Je vous amène d'abord en Italie, où depuis quelque temps, une vague d'incidents fascistes frappe le pays. Tout ça s'est déroulé là vers la fin avril, autour des célébrations de la Journée de la Libération, le 25 avril, date à laquelle l'Italie commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation de... et de l'occupation nazie. Donc, la veille, une banderole sur laquelle on pouvait lire « Honneur à Benito Mussolini », rien de moins, a été déployée à Milan par un groupe d'une trentaine de personnes, leurs visages cachés par la banderole et qui ont également lancé des slogans fascistes et effectué plusieurs saluts fascistes. La banderole avait été déployée à la Piazza Loreto, c'est-à-dire là où le cadavre du dictateur italien avait été exposé puis suspendu par les pieds en avril 45. Donc, l'endroit était plutôt bien choisi. L'événement est survenu à quelques minutes seulement de la demi-finale de la Coupe d'Italie entre l'AC Milan et la Lazio. La banderole était siglée IRR, ce qui laisse plusieurs penser que les individus concernés pourraient être des membres des Irriducibili, qui est en fait le principal groupe ultra de la Lazio Rome. Donc ça, c'était le premier événement. Ensuite, on est suivi toute une série d'autres. Le lendemain, une couronne de fleurs en l'honneur d'un partisan qui a combattu le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale a été brûlée à Milan toujours, alors que d'autres monuments ont été profanés ailleurs au pays. Le même jour, des militants d'extrême droite ont également manifesté à Rome en tenant une bannière sur laquelle on pouvait lire « Plus jamais d'antifascisme ». Et finalement, quelques jours plus tard, un millier de militants d'extrême droite ont commémoré l'assassinat d'un jeune fasciste par l'extrême gauche en 1975, toujours en faisant des saluts fascistes et tout ça. Bon, évidemment, ce genre d'incident-là, est pas nouveau, mais selon Roberto Tienati, qui est à la tête de la branche milanaise de l'Association nationale des partisans italiens, la nouveauté réside dans la facilité avec laquelle des hooligans peuvent maintenant brandir une bannière qui célèbre ouvertement Mussolini. L'apologie du fascisme est un délit, est considéré comme un délit en Italie, mais ces dernières années, il y a plusieurs affaires du genre qui ont été classées sans suite au nom de la fameuse liberté d'expression. Et bien que la législation italienne interdise la reformation d'un parti fasciste, il y a plusieurs organisations néo-fascistes qui existent et qui sont actives au pays. Donc, l'association demande au gouvernement italien d'interdire les organisations néo-fascistes, mais se bute toujours à un manque de volonté politique. Il faut dire que le pays est dirigé par un gouvernement de coalition formé par la Ligue du Nord, qui est la droite radicale, qui met de l'avant des politiques anti-immigration, et le mouvement 5 étoiles, qui est un peu flou, mais qu'on peut comme qualifier d'anti-establishment. Et bien que Matteo Salvini, qui est le ministre de l'Intérieur et le chef de la Ligue, et le mouvement 5 étoiles, aient condamné l'incident du 24 avril, il n'y a aucun membre de la Ligue qui a voulu participer aux commémorations de la Libération. Tous ces événements-là s'inscrivent dans le contexte où les élections européennes doivent se dérouler dans moins d'un mois. D'ailleurs, le 2 mai dernier, Matteo Salvini rendait visite au premier ministre souverainiste hongrois Viktor Orban à Budapest. L'objectif, forger une alliance entre droite conservatrice et extrême droite dans le contexte du scrutin européen du 26 mai. Toujours, sur la thématique des élections européennes, c'est clair que l'immigration sera un enjeu majeur de ces élections européennes. Les décisions qui sont prises à l'échelle européenne jouent en effet un rôle central à jouer dans la protection des principes de solidarité, de justice et de liberté. Et tandis que les initiatives citoyennes d'accueil des personnes migrantes se multiplient, les États de l'Union européenne, eux, se déchargent de plus en plus de leurs responsabilités. En refusant d'accueillir celles et ceux qui en ont besoin, ils mettent de côté leurs obligations tant européennes qu'internationales. En réponse au mouvement populiste qui alimente la peur et la xénophobie, les gouvernements invoquent une prétendue crise des réfugiés et adoptent des mesures anti-immigration de plus en plus radicales. Et, la multiplication des drames en mer Méditerranée ou sur les routes de l'exil, les situations indignes dans les camps, la maltraitance institutionnelle sont autant de conséquences de l'inhumanité de ces politiques-là. Donc, dans ce contexte-là, plusieurs organisations de défense des droits des personnes migrantes se mobilisent un peu partout en Europe pour réclamer un changement de cap des politiques migratoires et d'asile. Il y a cinq organisations européennes de soutien aux personnes migrantes qui proviennent d'Italie, d'Espagne, de France, de Grèce et d'Allemagne, qui ont publié un manifeste commun dans lequel elles dénoncent les dérives des politiques migratoire européenne et appelle les citoyens et citoyennes ainsi que les candidats et candidates à se mobiliser pour construire une Europe plus solidaire des personnes exilées. Premièrement, les associations considèrent que, avec le choix politique de dissuader plutôt que de secourir l'Union européenne et ses États membres, sont directement responsables de l'augmentation du nombre de personnes mortes, disparues ou en mer. Ça, c'est une des premières choses. Elles condamnent aussi, on revient avec l'idée des pays d'origine sûre, elles condamnent les États membres pour leur utilisation de ces concepts-là, c'est-à-dire de pays d'origine sûre, de premier pays d'asile ou encore de pays tiers sûr, parce que ça leur permet de se dispenser de leurs obligations de protection et de justifier les expulsions. Finalement, elle dénonce aussi la généralisation de ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire ces centres d'identification et de tri qui sont des lieux de contrôle, de stigmatisation et d'humiliation et de violence et qui favorisent beaucoup aussi les sentiments xénophobes parmi les populations locales excédées qui vivent à proximité. On aura l'occasion de reparler du scrutin européen du 26 mai, mais je vous invite quand même à visiter le site de la CIMAD, qui est une organisation de solidarité active avec les personnes migrantes en France, signataire du manifeste également, pour en apprendre davantage. Leur site internet, c'est www.lacimad.org. Et pendant qu'on entend Asian Dub Foundation et Fortress Europe, on va être malheureusement obligé de se quitter pour cette quatrième édition des Apatrides Anonymes qui se termine. Merci à Mathieu et Simon d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci Marie-Ève à l'animation, excellent travail.
Et merci pour tout ton contenu, dont cette très belle chronique internationale.
Oui, je pense que j'avais trop de stock en fait, c'est ça qui arrive.
C'est très intéressant. On a très bien compris.
Alors, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter en balado sur lesondesdechoc.ca. Notre site web également, www.apatridesanonymes.info. Et nous serons de retour pour une cinquième édition le dimanche 19 mai. Même heure, même poste. Et nous pouvons également vous dire en primeur et vous annoncer que nous serons présents sur lesondesdechoc.ca tout au long de la période estivale.
Jusqu'à l'automne. Yeah! Merci Marie-Ève.